Bonjour à tous et bienvenue sur Radio MDM pour votre première émission Voyage Immobile. Je suis aujourd'hui avec Arnaud Mora.
Salut Lucas.
Salut. Donc aujourd'hui, on va se retrouver en Alabama, aux États-Unis.
Et oui, dans la petite ville de Muscle Shoals, vraiment une toute petite agglomération. On se retrouve dans les années 60 et Muscle Shoals, à cette époque, c'est une petite agglomération de 35 000 habitants. Et il se trouve que ça va être l'endroit où il va y avoir un énorme studio d'enregistrement.
Il fera même concurrence avec les plus grands studios des États-Unis, comme la Stax à Memphis et à Détroit, la Motown.
Ouais, tout à fait. Et donc cette histoire, elle commence avec un mec qui s'appelle Rick Hall. Donc retenez le nom, on en reparlera. C'est un compositeur de country qui chante aussi. Et il décide un jour d'ouvrir son propre studio avec ses quelques économies. Il fait peut-être un petit prêt même. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de fric. Et le but, c'est d'aller soit à Nashville, qui est pas très loin au nord, ou à Memphis, qui est pas très loin à l'ouest. Sauf que, manque de fonds, manque d'argent. Donc, il va être obligé de rester dans sa petite ville de Muscle Shoals. Et le seul endroit qu'il va trouver, c'est un ancien entrepôt de tabac pour y installer tout son matos.
Et donc, il commence dans cet entrepôt de tabac. Il cherche, il connaît bien les villes alentours, il connaît bien les scènes musicales locales. Et donc, il cherche des artistes à produire pour faire son premier...
Son premier single, du coup. C'est, à l'époque, ça enregistrait des chansons à l'unité, surtout. Et en fait, il a la chance de connaître un mec qui s'appelle Arthur Alexander et qui est valet dans l'hôtel de la ville, probablement l'unique hôtel, c'est possible. Il est valet à l'hôtel et donc il écrit des chansons à côté, il les chante un peu. Et un jour, il fait écouter cette chanson à Rick Hall et il lui dit « Vas-y, c'est ça en fait, il faut faire ça, tu vas venir dans mon tout nouveau studio où j'ai encore rien enregistré et on va l'enregistrer ta chanson ». Sauf que il faut aussi des musiciens. Et là, il va appeler des anciens musiciens de son groupe, mais qui sont des adolescents qui ont 17, 19 ans, quoi. Qui n'ont jamais joué en studio, c'est pas gagné, quoi. C'est un peu à l'arrache. Et pourtant, ça va super bien marcher. Et la chanson en elle-même va super bien marcher. Elle va aller jusqu'à se hisser dans le top 50 des charts américaines.
Et elle ira même outre-Atlantique, puisque même les Rolling Stones, à leur début de carrière, ont repris cette chanson.
Ouais, et ça, on vous en reparlera tout à l'heure des Rolling Stones.
Mais pour le moment, on va vous laisser avec Arthur Alexander, You Better Move On.
You ask me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Well, I know you can buy her fancy clothes and diamond rings, but I believe she's happy with me without those things. Still, you beg me to set her free, but my friend, that will never be. You better move on. I can't blame you for loving her, but can't you understand, man, she's my girl. Go. Now I'm getting mighty mad. You ask me to give up the only love I've ever had. Maybe I would, oh, but I love her so. never gonna let her go. You better move on.
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 Vous venez d'écouter You Better Move On d'Arthur Alexander, qui fut un classique instantané dès sa sortie et qui a permis à Rick Hall, le fameux producteur, de créer son nouveau studio qu'il appellera Fame.
Ouais, Fame, donc bien évidemment Fame comme la célébrité en anglais, mais en fait c'est un acronyme, ça veut dire Florence Alabama Music Enterprises, parce que la ville, entre guillemets, la grande ville... de l'agglomération, c'est Florence, et le studio, même s'il a une seule chose, il voulait faire croire un peu que c'était à Florence. Il crée donc ce studio, ça commence à bien marcher, et au bout d'un moment, ça marche tellement bien qu'ils sont obligés d'ouvrir un deuxième studio, qui sera géré par le DJ de la radio locale, qui s'appelle Queen Ivy, si vous voulez le savoir.
Et donc ce DJ de radio locale, un soir, se retrouve en soirée dans un bar, et il découvre Percy Sledge qui joue... ou en tout cas chante un blues improvisé, et il est impressionné par la technique vocale du monsieur.
Complètement, il est impressionné par le morceau entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un encore. Et Percy Sledge, pour recadrer un petit peu le bonhomme, c'est donc c'est un peu la même histoire qu'Arthur Alexander, sauf que lui il travaille pas dans un hôtel, il travaille à l'hôpital, mais c'est tout autant un amateur. Et il joue avec son groupe dans les bars de la ville. Et donc ce fameux soir où Queen Ivy vient l'écouter dans ce bar, eh bien il est impressionné et ils se rencontrent tous les deux avec le reste du groupe en backstage, autour du bar, probablement.
Autour de shots.
Ouais, voilà, on est dans l'Alabama quand même. Et Queen Ivy lui fait une proposition, il lui dit j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ta chanson. Par contre, c'est un peu le bordel, va falloir structurer tout ça. Et si tu y arrives, moi j'ai un studio, je te propose de l'enregistrer. C'est exactement ce qui se passe. Peu de temps après, ils reviennent vers lui et la chanson avec laquelle ils reviennent, c'est « When a man loves a woman ».
Lorsque ce DJ local enregistre « When a man loves a woman » de Percy Sledge, Rick, qui est donc le fameux producteur de Fame, entend le morceau et décide d'appeler Jerry Wexler, qui est le producteur, un des plus grands producteurs de musique des États-Unis.
C'est ça, il est dans la maison de disques Atlantic à New York, et il en est d'ailleurs à cette époque le copropriétaire. C'est un grand dénicheur de talent aussi, c'est un acteur majeur de la musique américaine. Et il se trouve que Rick Hall a son numéro, qui doit traîner quelque part sur une carte de visite. Et donc quand il entend ce morceau, il se dit « Oula, là... il faut l'envoyer à un grand nom, quoi. Il faut vraiment... c'est le morceau à diffuser. » Il se trouve que Jerry Wexler, il est d'accord. Et ce sera la toute première chanson enregistrée à Muscle Shoals qui va se classer numéro 1 des charts. Et je pense qu'on va se l'écouter.
Allez, c'est parti.
C'est parti. « When a man loves a woman » de Percy Sledge.
Thing he's found. If she is bad,
c'était When a Man Loves a Woman de Percy Sledge.
Exactement, et peut-être que vous l'aurez remarqué, mais en fait les cuivres qu'on entend à la fin, ils jouent complètement faux. Et évidemment, une petite histoire un petit peu drôle derrière, c'est que Jerry Wexler, quand il a entendu ça, il s'est dit « qu'est-ce que vous avez foutu ? Ça joue complètement faux, donc vous allez me réenregistrer tout ça ». Et ils l'ont fait, sauf que, quelque part dans le processus, ils ont mélangé les bandes magnétiques, ils sont plantés d'enregistrement et ils ont sorti la toute première version, donc celle qu'on vient d'entendre, celle qui est devenue un tube international, comme quoi c'est pas très grave. Même, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça rajoute quelque chose même.
Oui, c'est assez réussi, ouais. Et ce morceau de Percy Sledge a aussi permis la naissance d'une collaboration assez fructueuse entre Jerry Wexler et Rick Hall, le producteur de Muscle Shoals, puisque Jerry Wexler, qui est assez impressionné par le morceau de Percy Sledge et la production aussi musicale de Rick Hall, décide d'envoyer de plus en plus d'artistes au studio Fame et au studio de Rick Hall.
Et ouais, en fait, ça l'arrange même beaucoup parce que avant, il envoyait beaucoup d'artistes à la Stax à Memphis, sauf qu'il y a eu une session avec Wilson Pickett qui s'est pas super bien déroulée, et la Stax refuse les artistes qui viennent d'autres maisons de disques. Donc, il est un petit peu embêté, et c'est une super bonne opportunité pour lui. Il s'est dit, je vais plutôt les envoyer à Muscle Shoals, ces artistes. Et logiquement, le premier artiste qui y va, c'est donc Wilson Pickett. Il vient en fait finir l'album qu'il avait commencé à la Stax. Il avait bossé avec Steve Cropper et Eddie Floyd, notamment à la Stax. Et voilà, milieu d'album, quoi. Donc il est obligé d'aller le finir à Muscle Shoals.
Et ça a été très compliqué pour Wilson Pickett, puisqu'il avait beaucoup d'appréhension par rapport à l'Alabama, venir dans un studio qui était quand même un petit studio à l'époque. Encore un petit studio. Et donc, beaucoup d'appréhension. Quand il arrive, il voit que c'est un petit groupe de jeunes blancs, des rednecks, on peut le dire, de 17 à 19 ans, sans expérience. Et il a quand même pas mal d'appréhension. Alors, Rick Hall, en bon producteur, le rassure, le met en confiance. Et ils vont commencer les enregistrements. Et
ça va super bien marcher, en fait. Il y aura une très bonne alchimie entre les musiciens, Rick Hall, le producteur, et Wilson Pickett au final, parce qu'ils vont enregistrer notamment deux énormes tubes pour cet album, deux énormes tubes dans la carrière de Wilson Pickett qui seront Mustang Sally et Land of a Thousand Dances.
Oui, cet album aura un très gros succès et Rick Hall il lui propose en tout cas de revenir l'année d'après pour pouvoir enregistrer un autre album, et Wilson Pickett est totalement en accord avec lui et est d'accord pour revenir donc l'année prochaine pour enregistrer un nouvel album.
Voilà, et donc entre temps à Muscle Shoals, la vie suit son cours et les choses évoluent un petit peu. Les musiciens de studio, notamment les premiers qu'avait engagé Rick Hall, sont restés quand même un petit moment, sauf que le succès du studio les a un peu projetés sur le devant de la scène. Même pour la petite anecdote, ils ont joué en première partie des Beatles sur leur tout premier concert en Amérique. Et du coup, on leur a proposé des contrats à Nashville, dans des plus gros studios avec une plus grosse paye. Donc évidemment, on peut les comprendre, ils y sont allés. Donc bien évidemment, ça a créé un vide dans l'équipe du studio. Et assez vite quand même, y a de nouveaux musiciens qui viennent prendre leur place et un groupe de studio en fait commence à se fixer. C'est un groupe que plus tard on appellera les Swampers, et c'est vraiment la section rythmique des musiciens de studio de Muscle Shoals, et c'est eux qui vont donc enregistrer avec Wilson Pickett quand il reviendra pour son deuxième opus enregistré à Muscle Shoals. Ce sera l'album Hey Jude. Et on va peut-être s'écouter le morceau éponyme alors.
D'ailleurs, je vous conseille d'écouter attentivement le solo de guitare de fin, puisqu'on en reparlera juste après. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her.
down. You found her, now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey, Jude, begin. You waited for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey, Jude, you do.
Vous venez d'écouter Hey Jude de Wilson Pickett, la reprise des Beatles. J'espère que vous avez suivi le conseil avisé de Lucas et que vous avez bien tendu l'oreille pour ce solo de fin, parce que on va en parler maintenant. Il a été joué par quelqu'un qui a une histoire un petit peu spéciale, parce que en fait c'était globalement un clodo qui vivait sur le parking du studio à cette époque-là, et c'est quelqu'un qui s'appelait Duane Allman. Donc peut-être que les plus connaisseurs d'entre vous savent ce qu'il est devenu. Quoi qu'il en soit, à cette époque-là, il campe sur le parking dans l'espoir de participer aux sessions. Et ce jour-là, donc, Rick Hall lui donne sa chance. Et en fait, ça va complètement lancer sa carrière.
En effet, le solo de guitare que vous avez écouté à la fin de Duane Allman a impressionné énormément de musiciens et de producteurs, dont Jerry Wexler, le producteur de Atlantic Records à New York.
Et oui.
Qui est en collaboration avec Rick Hall. Et en écoutant ce solo, Jerry Wexler demande justement à Rick Hall le nom du guitariste pour pouvoir le signer, et ça va être le début d'un groupe qui s'appelle les Allman Brothers, avec les deux frères, donc Duane Allman à la guitare et Greg Allman
à la guitare aussi. Et une autre personne qui aura été énormément impressionnée par cette performance, c'est nul autre qu'Eric Clapton, qui va commencer à suivre la carrière de Duane avec beaucoup d'attention. Et il le rejoindra finalement, enfin Duane le rejoindra à Miami pour qu'il collabore sur l'album Layla, et donc la fameuse chanson, le tube de Clapton sur lequel Duane joue. Et ils avaient une très forte relation. Clapton dira même, écrira dans son autobiographie, il était comme le frère musical que je n'ai jamais eu mais dont j'ai toujours rêvé.
Ça fait plaisir.
Ah, c'est sympa, ouais.
Et en parallèle, Rick Hall continue à recevoir des artistes d'un peu partout aux États-Unis. En particulier, une artiste dont on va parler assez rapidement, mais qui a une carrière importante, qui est Etta James.
Et oui, qui venait de Chess Records, le label de blues de Chicago.
Et donc, en effet, cette maison de production décide de l'envoyer à Muscle Shoals, parce qu'elle est un peu en creux de carrière.
C'est ça, pour allumer la flamme un peu.
Voilà. Et donc, elle décide d'arriver à Muscle Shoals pour écrire un nouvel album. Elle ne sait pas trop où elle en est de sa carrière. Et donc la rencontre entre les Swampers et Etta James fut assez prolifique puisque ça a permis de relancer sa carrière avec un nouvel album qui s'appelle Tell Mama, dont une chanson en particulier qui a été importante aussi dans la carrière d'Etta James puisque ça a été un hit dans les top charts aux États-Unis. Et c'est une chanson qui a d'abord été écrite par Otis Redding et Etta James décide de la reprendre. C'est donc Etta James, Security. Security de Etta James de l'album Tell Mama, cet album qui a donc relancé la carrière d'Etta James grâce à Rick Hall et à Muscle Shoals. À côté de ça, on a une autre carrière qu'on peut mettre en parallèle avec Etta James puisque c'est la carrière d'Aretha Franklin qui est née à Muscle Shoals.
Et oui, c'est ça, parce que donc elle avait déjà fait quelques albums, elle était signée en fait à Columbia, un autre label, et ses producteurs la faisaient reprendre des standards de jazz avec des grosses des orchestrations, avec beaucoup de cordes, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais ça ne marchait pas du tout, et donc le label décide d'arrêter son contrat. Sauf que Jerry Wexler, le fameux producteur d'Atlantic, il est quand même dénicheur de talent à la base, et il avait repéré Aretha Franklin. Donc quand le contrat se termine avec Columbia, il arrive, il la récupère, et à la base il voulait l'envoyer à la Stax, mais comme on avait parlé avec Wilson Pickett, ce n'est plus possible. Donc il l'envoie à Muscle Shoals, parce qu'il a une vision en fait pour elle.
Et donc Aretha Franklin arrive à Muscle Shoals pour débuter les sessions d'enregistrement. Donc elle rencontre Rick Hall et les Swampers. Alors au début c'est assez compliqué, les premières sessions sont assez compliquées, il y a très peu de production musicale puisque Aretha Franklin est un petit peu timide, elle a du mal à se trouver encore et à trouver sa voix.
Oui, pas habituée aussi à cette façon de faire qu'ils ont où c'est participatif, la composition des morceaux et l'arrangement.
C'est ça, les Swampers sont réputés pour être un groupe avec un groupe qui fait énormément d'improvisation musicale.
C'est ça, mais ils ne savent pas lire en fait, donc on ne peut pas leur écrire d'arrangement.
Voilà, ils ne savent pas lire de partition.
Mais ils sont créatifs.
Voilà, et donc c'est assez compliqué entre la personnalité d'Aretha Franklin qui sort de classiques assez standards sur partition,
oui,
avec les Swampers et l'improvisation musicale. jusqu'au moment où Aretha Franklin décide de se mettre devant un piano, de commencer à jouer quelques accords. Et à partir de là, les Swampers commencent à l'accompagner instrument par instrument, vraiment.
Il y a un arrangement qui commence à se dégager, vraiment.
Voilà, commence à structurer le morceau.
Ça se met en route.
Et ça sera le seul morceau qui sera enregistré à Fame. On le verra pourquoi après.
On vous racontera la petite histoire après.
Voilà, après l'avoir écouté. Donc on vous propose d'écouter I Never Loved a Man The Way I Love You d'Aretha Franklin. D'assister à la création du son d'Aretha Franklin tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque c'est un son beaucoup plus direct, efficace, voire même funk, comparé au début de sa carrière et aux standards de jazz qu'elle interprétait. Et malheureusement, ça sera le seul morceau qui sera enregistré au studio Fame, comme on l'a dit avant de lancer le morceau.
Et oui, en effet, parce que autant la session s'est très bien déroulée sur le plan musical, autant en coulisses, c'était un peu plus compliqué. En fait, Aretha, elle est venue avec son mari, qui s'appelait Ted White, et il a commencé à boire avec la section cuivre pendant la session. Donc au début, ça se passait bien, pas de problème. Et au bout d'un moment, il va voir Rick Hall et Jerry Wexler. Il leur dit « Ouais, il y a un des saxophonistes là, ça va pas du tout, comment il parle à ma femme, commence à la draguer un peu, ça va pas, il l'appelle ma chérie, faut qu'on le vire. » Bon, ils sont un peu pris de court, mais ils sont là, pas le choix, hein, on le vire. Donc ils continuent la session, mais bon, c'est compliqué.
Ouais, c'est un peu tendu.
Et ouais, c'est carrément tendu. Donc Rick Hall, il a la brillante idée d'aller voir Aretha et Ted dans leur hôtel et de leur offrir une bouteille de whisky qu'il entame auparavant. Et il se dit, oui, ça va régler les choses.
L'alcool apaise les mœurs.
Et oui, c'est bien connu, c'est bien connu. Du coup, il arrive et il commence à se battre, évidemment. Évidemment, il arrive à l'hôtel, il s'engueule direct. Et même apparemment, ils ont essayé de se jeter par-dessus le balcon de l'hôtel.
Du deuxième étage.
Ouais, c'est ça. Et ce qui fait que le mari d'Aretha Franklin se casse de Muscle Shoals directement dans la nuit, sans même prendre sa femme d'ailleurs. Et par contre, quelqu'un qui a assisté à la scène depuis sa chambre, c'est Jerry Wexler. Il voit ça, il se dit « Ouais, bon, ça va peut-être pas le faire en fait, Ricole. Il est peut-être pas ultra professionnel. » Donc, il va décider de ne plus jamais collaborer avec lui. Par contre, il a beaucoup aimé musicalement la session. Et donc, il décide de faire venir le groupe des Swampers jusqu'à New York pour enregistrer le reste de l'album avec Aretha Franklin. Et ils ont enregistré donc cet album, mais pas que, ils ont enregistré tous les plus grands albums d'Aretha Franklin avec des titres comme Respect, I Say a Little Prayer, tous les titres auxquels on pense quand on pense à Aretha Franklin, en fait, ça a été enregistré par les Swampers, mais à New York.
Pendant ce temps-là, pendant ces sessions d'enregistrement à New York, Rick Hall veut reconstruire un peu le studio et sa réputation après le problème qu'il a rencontré avec Jerry Wexler. Et donc on lui propose un contrat avec Capitol à Los Angeles.
Ouais, une des plus grandes maisons de disques du pays.
Donc pour lui, c'est une aubaine par rapport à ce qui s'est passé juste avant avec Aretha Franklin et Jerry Wexler. Donc il décide de partir à Capitol pour signer ce contrat avec cette maison de production.
Voilà, le seul problème, c'est que lorsqu'il revient et qu'il veut annoncer ça à son groupe, qu'il veut annoncer ça aux Swampers, eux, ils sont en train de revenir de New York, d'ailleurs, d'une session avec Aretha. Et Rick leur annonce la bonne nouvelle, sauf que les Swampers lui annoncent la mauvaise nouvelle, qu'ils partent, qu'ils vont fonder leur propre studio de l'autre côté de la ville, avec l'argent que leur a donné Jerry Wexler.
Les Swampers commencent alors à construire leur nouveau studio, qui s'appelle Muscle Shoals Sound Studio. À Muscle Shoals, donc dans une petite ville Sheffield à côté.
Oui, dans une petite ville qui n'est pas vraiment Muscle Shoals, mais qui est la ville qui est collée.
Voilà. Et donc, c'est un bâtiment un peu pourri, avec des murs fins, c'est très mal insonorisé, c'est tellement mal insonorisé qu'ils ne peuvent pas faire de session d'enregistrement lorsqu'il y a de l'orage ou même une pluie un petit peu forte, puisqu'on l'entend à travers les murs. Donc c'est assez compliqué la première année pour eux par rapport aux sessions d'enregistrement, ne serait-ce que pour enregistrer, puisque les Swampers ne sont pas ingénieurs du son, ils ne sont même pas producteurs. Et pour la première fois de leur carrière, ils doivent endosser ce double rôle de producteur et d'ingénieur du son.
Et oui, et c'est dans cette première année où ils enregistrent, par exemple, le titre d'Herbie Mann, la reprise de Come Together qu'on a entendu en début d'émission. Bon, par contre, il se trouve que le jazz à la flûte, c'est pas super vendeur, des morceaux de 10 minutes de flûte. Bon, voilà, ça marche pas super bien. Ils vont enregistrer Cher aussi, qui va faire un album entier là-bas, un album dont la pochette, d'ailleurs, représente le studio. Si vous voulez aller voir, c'est son album, je vais vous la faire en français, 3614 Jackson Highway. Voilà, si par curiosité, vous voulez voir le bâtiment. Et à la fin de cette année, quand même, finalement, ils ont leur premier tube avec Take a Letter, Maria.
Et grâce à ce hit, le studio est relancé, ou en tout cas est lancé. Et ce studio commence à jouir d'une renommée internationale grâce aux Swampers qui ont déjà un nom dans l'industrie musicale. Et
oui, puis ça fait un petit moment quand même que cette histoire a commencé. Et le son de Muscle Shoals s'est énormément exporté.
Oui, on peut le dire, le son de Muscle Shoals est devenu quelque chose d'assez légendaire qui a suscité énormément de mystères autour, puisque c'est une toute petite communauté de villes aux États-Unis. Et donc, comme le disait Arnaud, ça s'est très bien exporté, ce son a très bien marché outre-Atlantique, et on vous parlait avant des Rolling Stones, mais il faut savoir que les Rolling Stones étaient des fans absolus des Swampers et des fans absolus du son des Swampers. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de venir aux États-Unis, tout d'abord pour faire une tournée aux États-Unis, et ils en ont profité pour aller à Muscle Shoals et s'imprégner du son de Muscle Shoals.
C'est ça, en fait, ils sortent de leur album Beggar's Banquet et ils profitent de leur tournée en Amérique pour aller enregistrer quelques titres, et ils se retrouvent donc à Muscle Shoals. Et c'est le fait de se retrouver dans un coin un petit peu paumé de l'Alabama qui va leur donner l'idée de reprendre un standard typique du blues de cette Amérique profonde. C'est un gospel qui avait été adapté par Sam Cooke, mais que eux, les Stones, connaissent de Mississippi Fred McDowell. C'est une chanson qui s'appelle You Gotta Move, et c'est un des titres qu'ils ont enregistré à Muscle Shoals. Je vous propose qu'on l'écoute.
D'écouter les Rolling Stones sur Radio MDM. Alors il faut savoir que ce groupe, les Rolling Stones, ont été largement influencés par le son de Muscle Shoals depuis leur début de carrière et depuis même avant leur début de carrière en tant que musicien. Ça a été quelque chose de très fondateur pour eux. Même Keith Richards en parlera, il parlera de ses sessions d'enregistrement à Muscle Shoals comme quelque chose d'inspirant et d'un renouveau musical pour lui. Le groupe a été transcendé par l'énergie et par l'ambiance du studio.
Et oui, ils seront super productifs, ils vont y rester que 3 jours là, mais ils vont y écrire et y enregistrer, donc en plus de You Gotta Move qu'on a écouté, 2 des singles de leur album suivant Sticky Fingers. Ça va être Brown Sugar et Wild Horses, donc les 2 morceaux qu'ils auront écrits puis enregistrés dans le studio des Swampers.
Et pour revenir aux Swampers, il faut savoir qu'à cette époque-là, ils ont commencé à collaborer avec des artistes de plus en plus différents de par leurs styles musicaux. Ils ont commencé en faisant du rock, de la soul, du R&B, et ils ont même fait du reggae en collaborant avec Jimmy Cliff. Et oui, même Jimmy Cliff est venu enregistrer à Muscle Shoals.
Et ouais, un de ses tout premiers albums, son deuxième. Et donc je me suis demandé un peu comment ça se fait depuis la Jamaïque qu'il soit arrivé dans l'Alabama. Et à mon avis, la piste qu'il faut suivre, c'est celle de son label. Donc le label Island Records, qui est un label très fondateur de la musique jamaïcaine. Et donc label fondé par Leslie Kong, Chris Blackwell. Et qui donc faisait beaucoup de musique jamaïcaine, mais dont les bureaux étaient à Londres. Et je pense que ça vient de là, donc, parce que aussi signé sur ce label, il y avait des groupes anglais comme Traffic qui vont aussi enregistrer à Muscle Shoals. Donc moi, ma théorie, c'est que Jimmy Cliff, c'était un petit peu un test, en fait. Pour Island, c'était... il voulait tester Muscle Shoals, je pense, en envoyant Jimmy Cliff.
Oui, ce qui a très bien marché au final, puisque les Swampers ont réussi à trouver une certaine alchimie avec Jimmy Cliff, tout en gardant le son Muscle Shoals qui leur est propre.
Ouais, ça donne un mélange qui est super intéressant, je trouve.
Mmh, en effet.
Et donc, ils ont enregistré un album entier là-bas qui a pas été, qui a pas bien marché. Mais un an plus tard, Jimmy Cliff a tourné dans le film The Harder They Come, donc en tant que personnage principal, et le film est devenu culte. Et dans ce film, eh bien, il y a une des chansons de cet album donc, qui a à ce moment-là gagné en popularité. C'est la chanson Sitting in Limbo, et c'est celle-là qu'on va écouter de suite.
Sitting here in limbo, but I know it won't be long. Sitting here in limbo, like a bird without a song. Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. Sitting here in limbo, waiting for the dice to roll. Sitting here in limbo, got some time to search my soul. Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. I don't know where life will lead me, but I know. Show me what I know, what I've seen. Tried my hand at love and friendship, but all that is past and gone. This little boy is moving on. Sitting here in limbo, waiting for the tide to flow. Sitting here in limbo, knowing that I have to go. Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. I can't say what life will show me, but I know what I've seen. I can't say where life will lead me, but I know. Tried my hand at love and friendship, but all that is past and gone. This little boy is moving on. Sitting here in limbo, waiting for the tide to flow. Sitting here in limbo, knowing that I have to go. Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. Sitting in limbo, sitting in limbo, sitting in limbo. Yeah.
Nous sommes maintenant en 1971, soit exactement 10 ans après le début de toute notre histoire. Et tout ce parcours aura finalement réussi à forger une identité sonore propre à l'Alabama. Les studios, les deux studios, celui de Recall et celui des Swampers, sont bien établis et ont vraiment créé une cohésion dans les États du Sud.
En effet, les deux studios de Muscle Shoals ont pu collaborer avec de nombreux artistes provenant de scènes musicales différentes, comme Jimmy Cliff, les Rolling Stones ou bien d'autres, on n'a pas pu tous les énumérer. Et malgré toutes ces collaborations différentes, ils ont toujours réussi à garder le son propre des États du Sud et de Muscle Shoals.
Et malgré tout, le fait d'être isolé comme il l'était leur a permis de garder une certaine distance vis-à-vis de l'industrie musicale, une indépendance, et leur a permis d'être très souvent dans l'avant-garde.
En effet, Arnaud, d'ailleurs, les Swampers ont pu assister au début d'un groupe qui deviendra un groupe mythique, en tout cas un groupe très important dans les États du Sud, qui est Lynyrd Skynyrd. Ils ont commencé en effet à enregistrer, à faire des sessions d'enregistrement dans le studio des Swampers. En a résulté des morceaux qui deviendra par la suite des singles internationaux comme Free Bird ou même Simple Man.
Et oui, des démos de leurs tout premiers albums, ouais.
Mais malheureusement, ils sont confrontés encore une fois à l'industrie musicale. Les Swampers étant un peu trop avant-gardistes pour leur temps, ils voulaient que ces morceaux de 10 minutes soient des singles, ce qui a été refusé par toutes les maisons d'édition.
Et oui, bien sûr, parce que des morceaux de 10 minutes, ça ne passe pas très bien à la radio, évidemment.
Et le projet fut alors avorté, et il aura fallu encore quelques années pour que Lynyrd Skynyrd soit enfin reconnu à sa juste valeur.
C'est ça. Et finalement, on a pu entendre ces sessions qu'ils avaient réalisées avec les Swampers qu'après la fin du groupe, qu'après ce tragique accident d'avion qui a vu disparaître la moitié du groupe. C'est là qu'ils ont ressorti les toutes premières sessions.
Mmh, en effet.
Et je vous propose qu'on finisse cette première émission d'ailleurs en écoutant Freebird dans son intégralité à la radio, parce que on est comme ça sur Radio MDM, on est comme ça dans Voyage Immobile. Donc on vous laisse et on vous donne rendez-vous pour le mois prochain.
whisper sweet love. Though this feeling I can't change, please don't take me so badly, 'cause the Lord knows I'm to blame. But if I stay bird now, and this bird